Vous êtes avec SBS French.
Et les principales actualités de ce mardi 11 mai 2021. Josh Frydenberg, le ministre du Budget, présente ce soir le budget du gouvernement pour l'année 2020-2021, un budget destiné à favoriser la relance post-pandémie. Le retour de la violence entre Israël et la Palestine, au moins 20 personnes sont mortes hier dans la bande de Gaza. Et en France, la mort de Michel Fourniret à l'âge de 79 ans, c'était l'un des rares tueurs en série français. Retour en fin de journal sur cet homme surnommé l'ogre des Ardennes. Et la principale actualité du jour en Australie, c'est donc la présentation ce soir au Parlement du budget fédéral par Josh Frydenberg. Un budget qui ne devrait pas lésiner sur les dépenses, l'objectif étant d'accélérer la relance post-pandémie, mais aussi de faire chuter le taux de chômage sous la barre des 5%. Hors coronavirus et reprise économique, l'un des éléments marquants également qu'on attend dans ce budget, c'est l'accroissement considérable des fonds alloués au NDIS, le National Disability Insurance Scheme, cet organisme de soutien aux personnes handicapées que le ministre assure ne pas avoir oublié.
In tonight's budget, you'll see additional funding for the NDIS. This is a wonderful program. It's made a profound change to the lives of Australians with disabilities and their families. We all know stories of people who have been assisted by the NDIS. And under the coalition, the NDIS will always be fully funded. We need to ensure it continues to remain sustainable. But under the coalition, we are deeply committed to the NDIS and we'll always ensure that it's fully funded.
Sur un autre sujet, on n'y croyait déjà plus vraiment, à vrai dire, mais ce budget nous apporte également une autre certitude, celle que les frontières de l'Australie, malheureusement, ne rouvriront pas avant l'année prochaine, en 2022. La santé ou la liberté de circulation, la question s'est posée pour le gouvernement et sa réponse, elle a été très claire. La priorité absolue, c'est la santé, c'est ce qu'a rappelé le ministre Simon Birmingham sur Channel 9.
Australia is doing well and that enables us to invest. And you know, you look across the world, in Europe, they're going back into recession, a double dip recession induced by COVID. In India, we can see the health catastrophe that's happening there. And so you know, in Australia, we want to make sure that we keep people safe, which is why we're being so cautious in things like international borders.
Et ceux qui parmi nous vont pouvoir bientôt passer les frontières, ce sont les Australiens qualifiés pour les Jeux Olympiques. Afin d'assurer à leur participation aux Jeux de Tokyo, déjà décalés d'un an et qui doivent se dérouler au mois de juillet et d'août, les athlètes ont commencé cette semaine à se faire vacciner. Des centres de vaccination ont ainsi été déployés dans les grandes villes du pays. De quoi rassurer ces athlètes, d'après Matt Carroll, le président du comité olympique australien. Ce Matt Carroll, il s'est également exprimé à propos de l'opposition grandissante au sein de la population japonaise vis-à-vis de la tenue de ces JO. Cette réaction n'est d'après lui pas surprenante. Écoutez-le.
It's not surprising that that resentment would be building in Japan. I mean, the government is committed, and in terms of their prime minister is committed, and the IOC to making it a safe games. And you can already see the measures. And getting the Australian team vaccinated is obviously important. There's over 60% of the national Olympic teams have also getting vaccinated at the moment. So there's that. No foreign visitors are very important. So a lot of measures being put in place. The athletes go to the bubble of the village. They come out. They go to competition. And 48 hours after they're finished. They're on the way home.
À Canberra, le gouvernement fédéral n'a pour l'instant toujours pas fixé de date limite pour atteindre la neutralité carbone. En revanche, la ville de Sydney vient, elle, d'annoncer une accélération de son objectif en la matière. Elle compte désormais atteindre la neutralité carbone dès 2035, soit 5 ans plus tôt que la date à laquelle elle s'était précédemment engagée. En la matière, la ville de Sydney fait figure de pionnière en Australie sur la question de la réduction des gaz à effet de serre. Elle utilise d'ores et déjà 100% d'énergie renouvelable pour faire tourner ses propres services et ses propres activités. En Israël, je vous le disais dans les titres, le retour de la violence entre Israéliens et Palestiniens. Lundi, des roquettes ont été tirées sur Jérusalem depuis la bande de Gaza, un assaut par lequel l'armée israélienne a répliqué en bombardant le territoire palestinien. au moins 20 personnes ont succombé à cette attaque. Des événements qui font réagir l'ensemble de la communauté internationale. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a appelé à la désescalade.
That violence needs to cease. All sides need to de-escalate, reduce tensions, take practical steps to calm things down. I appreciate some of the steps we've seen in the last 24 hours, particularly with regard to rerouting the parade. And putting off a decision on the evictions, but it's imperative that all sides take steps to de-escalate and calm the situation. And again, I'm deeply concerned about the rocket attacks, and even as all sides take steps to de-escalate, Israel, of course, has a right to defend its people and its territory from these attacks.
Dans la bande de Gaza, en tout cas, malgré la violence des représailles imposées par l'armée israélienne, cette attaque ne semble pas avoir entamé la détermination des militants. Écoutez par exemple le témoignage d'Amja, recueilli par l'envoyé spécial de RFI, Sami Boukhelifa.
Nous sommes tellement tristes. À Gaza, il y a eu des morts, des martyrs. Que Dieu vienne en aide à nos frères. Nous, ici, à Jérusalem, nous sommes habitués à la répression des forces de l'occupation. Ce n'est pas nouveau. On fait face aux tirs de balles en caoutchouc et aux gaz lacrymogènes. Leurs moyens de répression ne nous font pas peur. Au contraire, cette répression nous pousse à la résistance et on finira par les faire plier. Vous savez, le Premier ministre Benjamin Netanyahou publie sur ses réseaux sociaux « Jérusalem est la capitale d'Israël. Jamais nous ne l'accepterons. Avec ce qui se passe en ce moment, j'espère que des pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël le regretteront. »
Sinon, un léger mieux sur le front de la pandémie dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé annonce aujourd'hui que le nombre de nouveaux cas de coronavirus se stabilise, avec même des déclins très nets enregistrés en Europe et aux Amériques, deux des continents les plus touchés. Pourtant, elle, la propagation des variants, beaucoup plus contagieux, à un moment où les restrictions sont levées dans de vastes parties du monde, reste très importante. La situation reste d'ailleurs critique d'après Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS.
Globally, we're now seeing a plateau in the number of COVID-19 cases and deaths, with declines in most regions, including the Americas and Europe, the two worst affected regions. But it is an acceptably high plateau, with more than 5.4 million reported cases and almost 90,000 deaths last week.
Et toujours en rapport avec le coronavirus, une actualité venue des États-Unis, la Food and Drug Administration, l'agence américaine du médicament, vient de donner son feu vert pour la distribution du vaccin Pfizer aux enfants âgés de 12 à 15 ans. C'est le premier vaccin anti-Covid à recevoir ce type d'autorisation aux États-Unis pour ce groupe d'âge. Une étape jugée essentielle par le gouvernement américain pour permettre aux enfants de retourner à l'école en toute sécurité. Et puis on reste aux États-Unis puisque là-bas donc on ne manque pas de vaccins. En revanche, pas toujours facile en ce moment de faire son plein d'essence. La société Colonial Pipeline, qui gère le plus grand oléoduc des États-Unis, a été victime d'un piratage informatique en fin de semaine dernière. Une attaque qui a poussé l'entreprise Colonial à interrompre le fonctionnement de son pipeline et qui provoque des perturbations dans la distribution de fuel et d'essence un peu partout dans le pays. Le gouvernement américain a pour sa part pris des mesures pour éviter les pénuries. À Washington, la correspondance pour RFI, Dan Corpet.
Il n'y a pas encore de pénurie, a fait savoir la Maison-Blanche, mais le président américain a déjà levé les restrictions qui pèsent habituellement sur la circulation de camions-citernes. L'armée et le secteur privé seront mobilisés, si c'est nécessaire, pour organiser le ravitaillement en carburant. Le réseau de pipelines immobilisés transporte chaque jour normalement plus de 2,5 millions de barils d'essence, de diesel et de kérosène destinés aux stations-service et aux aéroports de 17 États. La société coloniale dit vouloir remettre le pipeline en opération d'ici la fin de la semaine. Selon le FBI, l'attaque est attribuée à un groupe dénommé DarkSide, des cyberdélinquants expérimentés qui cherchent à soutirer de l'argent de leurs cibles. Selon la police fédérale, l'attaque a été lancée depuis la Russie, mais Joe Biden a dit ne pas avoir la preuve de l'implication du gouvernement russe. Les autorités américaines précisent enfin que puisque l'attaque vise une société privée, c'est à elle de décider si une rançon doit être ou non versée. Anne Corpet, Washington, RFI.
En France, la mort de celui qui était sans doute le plus célèbre tueur en série de l'Hexagone, Michel Fourniret, est mort hier après-midi à l'âge de 79 ans à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Condamné une première fois à la prison à perpétuité pour le meurtre de 7 jeunes femmes et adolescentes, il avait été aussi rendu coupable d'un assassinat en 2018, là aussi condamné par une peine de prison à vie. Mais Michel Fourniret laisse aussi derrière lui de nombreuses autres affaires sans réponse. Retour sur celui qu'on surnommait l'ogre des Ardennes, Marie Casadebé pour RFI.
Le parcours criminel de Michel Fourniret aurait commencé dans les années 60. Il est alors jeune père de famille, dessinateur industriel. Il fait monter dans sa voiture une fillette de 11 ans qu'il tente d'agresser avant de relâcher. Face aux enquêteurs, il évoque une dépression, une tendance au voyeurisme. Sa femme le quitte. Deuxième mariage, trois autres enfants. À la fin des années 70, Michel Fourniret écume les routes armé d'un vieux pistolet à la recherche de jeunes filles vierges, une obsession. Après plusieurs agressions et un viol, il est arrêté en 1984. Sa seconde épouse demande le divorce. Arrivera alors dans sa vie Monique Olivier, la complice de son entreprise meurtrière. Elle doit l'aider à trouver ses proies, il doit se débarrasser de ses anciens maris et partenaires. Ils sillonnent ensemble la région à bord d'une camionnette blanche. Elle joue les rabatteuses en amadouant leurs victimes, parfois avec leur bébé dans les bras. Impossible encore de savoir combien de jeunes femmes Michel Fourniret a assassinées, seules ou en couple, entre ses aveux, ses rétractations et ses mensonges. Selon le quotidien Le Parisien, une trentaine d'ADN inconnus prélevés sur des objets personnels sont en cours d'analyse et de rapprochement avec des affaires non élucidées.
Et en France toujours, la justice vient de trancher en faveur de l'industrie agrochimique. Bayer, Monsanto, Dow Chemicals et d'autres géants du secteur comparaissaient devant le tribunal en région parisienne pour leur rôle supposé pendant la guerre du Vietnam. Et plus précisément, la question était de savoir s'ils pouvaient être tenus pour responsables pour l'épandage du tristement célèbre agent Orange par l'armée américaine dans les années 60 au Vietnam. Donc, et bien pour la justice française, la réponse est non. Les arguments présentés par la plaignante étant, d'après le tribunal, irrecevables. À Paris, les explications de Vincent Souriau.
En 2014, Trantonia engage un bras de fer contre les géants de l'industrie agrochimique. Cette franco-vietnamienne, aujourd'hui âgée de 78 ans, assigne en justice plus d'une vingtaine d'entreprises américaines. En fournissant au gouvernement des États-Unis de quoi fabriquer l'agent Orange, avance-t-elle, vous avez sciemment participé à répandre un poison ultra toxique au Vietnam. Et pour appuyer son propos, elle met en avant ses maladies multiples, cancer du sein, diabète, tuberculose, qui résultent, selon elle, de son exposition à l'agent Orange dans la région de Saïgon en 1966. Vrai ou faux, c'est impossible à prouver et le tribunal d'Evry ne s'y risque pas. Les juges français s'arrêtent en revanche aux archives de l'administration américaine et ils constatent qu'à l'époque de la guerre du Vietnam, les ordres venaient d'en haut, de tout en haut, car c'est le président américain John Fitzgerald Kennedy en personne qui fait alors réquisitionner ses stocks de composants chimiques. Les magistrats français estiment par conséquent que les multinationales de l'agrochimie ont été contraintes de participer à l'effort de guerre, qu'elles ont agi pour le compte de l'État américain et qu'à ce titre, elles ne peuvent pas être poursuivies par la justice française. Monsanto, Bayer et consorts gagnent donc la première manche, mais les avocats de Trantonia ont déjà annoncé qu'ils allaient faire appel.
Et comme toujours, nous terminons ce bulletin d'information avec un coup d'œil sur la météo en Australie ce mardi. 27 degrés du soleil à Perth, 16 degrés seulement à Adélaïde où le temps est couvert aujourd'hui. 15 degrés de la pluie sur Melbourne, quelques averses aussi à Sydney où il fait 21 degrés, 28 degrés à Brisbane avec quelques risques d'orages, chaud et humide aussi aujourd'hui à Cairns avec 29 degrés et jusqu'à 35 degrés à Darwin ce mardi.
partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.